marchande de sable, il était une fée. Ondine de Claudine Oglo et Armel Gaulm. Plainte lugubre déchira le silence qui suivit le récit du vieux pêcheur, amplifié par le vent rageur qui s'acharnait sur la chaumière. Huldebrand bondit, affolé à l'idée que la jeune fille qu'il aimait déjà fût seule dans la nuit et la tempête. Il s'élança dans l'obscurité, suivi d'Albrecht qui, entre deux rafales de vent, hurlait le nom d'Ondine. Le temps d'une brève trouée dans les nuages, ils virent le lac pareil à une mer démontée, et le ruisseau roulant avec la violence du Rhin en pleine crue. Ils se dirigèrent vers les bois sombres, mais durent vite battre en retraite. Le cours d'eau avait si largement débordé qu'il coupait l'accès à la forêt, transformant la presqu'île en île. Albrecht et Hildebrand partirent alors chacun de leur côté. Le pêcheur suivit la rive du lac, le chevalier celle du ruisseau impétueux. Personne ne répondait à leurs appels. La lueur fugace de la lune ne révélait que le désordre des branches et des pierres dans les tourbillons de l'eau. Ondine avait certainement franchi le ruisseau avant la crue et devait maintenant errer dans la forêt peuplée de créatures hostiles, plus cruelles encore que les loups et les ours, pensait Hildebrand. S'armant d'un bâton, en guise de canne, il décida de traverser lui aussi des eaux bouillonnantes. Il avança prudemment d'un pas, puis d'un autre. Parvenu au tiers de sa traversée, il manqua d'être emporté par un tourbillon. Malgré son grand courage, il sentit l'affolement le gagner. Certes, il savait se battre contre plusieurs ennemis à la fois, mais comment faire pour résister aux assauts de la nature déchaînée? Lorsqu'il entendit un rire léger, puis les notes d'une chanson portée par l'ouragan furieux, il crut perdre la raison. Prends garde au ruisseau, ne sois pas insensé, ton visage est si beau, ne le laisse pas se noyer. Hildebrand reconnut cette voix entre mille. Ondine, s'écria-t-il, montre-moi le chemin qui mène jusqu'à toi. Ondine, s'il me faut mourir dans cette tempête, que ce soit à tes côtés. Ondine, ma chère Ondine, permets-moi de venir jusqu'à toi. Je veux ne plus jamais te quitter, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Le rire reprit, beaucoup plus proche, puis une voix douce, si douce, la voix d'Ondine, s'éleva. Tourne-toi simplement, mon beau chevalier, et ne va pas mourir sautement alors que nous sommes si proches l'un de l'autre. À cet instant, la lune réapparut, révélant à Hildebrand la pâle silhouette de la jeune fille, debout sur un îlot que le bras du ruisseau avait formé en débordant sur la prairie. Ses forces décuplées par le bonheur, le chevalier réussit à sortir de l'eau. En quelques pas, il franchit le ruisseau et se jeta dans les bras d'Ondine. Derrière eux, l'eau se mit soudain à enfler et ils se réfugièrent au creux des buissons. Peu après, Albrecht arriva devant l'îlot. Il ne pouvait y accéder, pas plus qu'Ondine et Hildebrand ne pouvaient en repartir. Hildebrand rassura le vieil homme, promettant de lui ramener sa fille dès le lever du jour. Quant à Ondine, elle chantait, penchée au-dessus du courant. Dès que les jeunes gens furent de nouveau seuls, Ondine se blottit dans les bras du chevalier et se mit à lui poser une foule de questions sur la façon dont il était arrivé à la chaumière. Lorsqu'il mentionna l'homme blanc qu'il avait cru voir plusieurs fois, elle détourna les yeux en frissonnant, puis elle lui demanda de lui raconter sa vie. Sans méfiance, Hildebrand évoqua sa jeunesse, son arrivée au palais et sa rencontre avec Bertalda. À ces mots, il sentit une vive douleur à la main. Ondine venait de le mordre cruellement. Elle le regarda, les yeux brillants de rage. Se levant d'un bond, le chevalier se retira à l'abri des arbres. Il ne savait quoi penser. Devait-il s'inquiéter de la sauvagerie d'Ondine ou être flatté de la jalousie qu'il avait suscitée en parlant de Bertalda? Bientôt, la jeune fille le rejoignit et s'empressa auprès de lui avec tant de charme, tant de tendresse et de drôlerie que le vilain souvenir s'effaça très vite de la mémoire d'Hildebrand. Jusqu'à l'aube, le chevalier et la lumineuse petite fille se murmurèrent leurs secrets, échangèrent des serments et bien des baisers aussi. Au premier rayon du soleil, portant sa douce amie dans les bras, Hildebrand réussit à franchir le bras du ruisseau qui les avait isolés toute la nuit. Accrochée à son cou, Ondine chanta une vieille chanson paysanne qui remercie les flots de leurs bienfaits. Les eaux avaient baissé, seul le cours du ruisseau qui les séparait de la forêt demeurait impétueux, impossible de le traverser. Alors, Hildebrand s'installa dans la chaumière et commença à vivre avec les deux vieux et sa chère Ondine. Il aidait Albrecht, chassait des oiseaux dans les bosquets que l'inondation avait épargnés, entraînait son cheval. Chaque jour, il regrettait un peu moins sa vie à la cour, tout à son bonheur d'être sur cette île merveilleuse aux côtés de sa bien-aimée. Tout ce que faisait Ondine le ravissait. Elle dansait avec plus de légèreté qu'une plume dans le vent, jouait à merveille de la harpe et du luth, qu'Albrecht lui avait jadis rapporté de la ville, et les oiseaux se taisaient pour l'écouter chanter. Si la belle aux cheveux d'or avait parfois d'étranges manières, Hildebrand était bien trop amoureux d'elle pour s'en étonner. Il ne s'inquiétait pas plus de la voir laver un plein bac de vaisselle en quelques minutes que de retrouver le harnachement de son cheval parfaitement nettoyé ou ses armes impeccablement brillantes, simplement parce que son ami y avait promené ses mains en parlant à voix basse. Rété protestait et exigeait qu'Ondine travaillât comme elle, mais la jeune fille s'esquivait en riant, racontant des choses folles qui faisaient rire les deux hommes et irritaient la vieille dame. Ces étranges pouvoirs ne furent jamais autant appréciés par les habitants de l'île que le jour où la provision de vin se trouva épuisée. La jeune fille était alors partie seule, le long du ruisseau, toujours aussi écumeux, et s'était assise sur une branche au-dessus de la rive, parlant à un interlocuteur invisible. Elle revint une heure plus tard, riant aux éclats, affirmant qu'une surprise attendait son père et son cher Hildebrand. De son pas dansant, d'un air enjoué et plein de mystère, elle les mena vers un grand fouillis de roseaux et d'herbes aquatiques où nichaient des oiseaux. Là, ils découvrirent un tonneau d'un vin doré et capiteux qu'ils rapportèrent tout heureux à la chaumière. La vie continua ainsi, douce et lumineuse. Hildebrand ne voyait plus le temps passer. Quant au ruisseau, il s'obstinait, malgré le beau temps revenu, à isoler la chaumière de ses flots impétueux.
Sei doch cool und schlupf ins Bett.
Ondine et Hildebrand allaient se marier. Albrecht en était sûr. Chaque jour, il s'efforçait de calmer Grete, qui ne tolérait pas de voir sa fille passer le plus clair de son temps pendu au bras ou au cou d'Hildebrand. Tout à son amour, Ondine ne se souciait plus d'aider la vieille femme. Depuis que leur domaine avait été transformé en île par la crue persistante du ruisseau, il n'y avait rien à faire dans la maison, prétendait-elle. Elle préférait charmer Hildebrand par ses chants mélodieux que fourrager dans l'arrière-cuisine. Elle se moquait de Grete avec tant de drôlerie et chantait avec tant de grâce que le jeune homme n'avait pas le cœur de la réprimander. Il s'étonnait seulement de la voir remercier avec effusion le ruisseau, chaque fois qu'il constatait que les eaux étaient toujours infranchissables. Le soir où l'air était particulièrement doux, Grete dressait la table dehors et disposant sa plus belle vaisselle. Ondine se montrait agitée. Elle allait du ruisseau à la forêt, puis elle partait au nord du lac, où elle surveilla le vol des oiseaux. Elle revint enfin, désignant de la main les petits nuages qui montaient à l'horizon. « Rentrons vite avant que l'eau et les vents ne nous emportent. Allez, ne traînons pas dehors » jeta-t-elle aux trois autres, rapportant vivement dans la chaumière les verres et la carafe de vin. Hildebrand et les parents d'Ondine crurent à une nouvelle lubie due à son caractère fantasque. Mais Albrecht commença à s'inquiéter lorsqu'il la vit ressortir, les mains levées vers les nuages qui grossissaient de manière extraordinairement rapide, poussés par un vent violent. « Vous, là-haut » cria-t-elle, « laissez-nous un peu de temps, épargnez notre maison et nos vies !» Les sinistres nuées arrêtèrent un instant leur course. Les deux vieux et Ondine s'élancèrent alors vers la chaumière, tandis qu'Hildebrand menait son cheval à l'abri. Le jeune homme venait à peine de refermer la porte de la maison derrière lui, que la tempête éclata, plus terrifiante encore que la nuit de son arrivée. Des vagues couronnées d'écume se brisaient aux lisières de la prairie, les plus fortes s'abattaient sur la maison et la pluie se déversait par la cheminée en une telle abondance que le feu s'éteignit. À chaque instant, on s'attendait à voir s'envoler le toit de chaume. Entre deux hurlements de vent, un léger bruit se fit entendre à la porte. Ondine bondit d'un coup et les deux mains plaquées sur le ventail de bois, hurla d'un ton courroucé. « Allez-vous-en, affreux troll, et vous, lutin malfaisant, passez votre chemin. Vous n'avez pas le droit de venir me tourmenter ici. Mon oncle Kelborn saura vous le faire regretter. » Les coups sur la porte redoublèrent et une voix bien humaine implora un peu d'aide. Ondine recula, à regret. Albrecht ouvrit la porte et tira à l'intérieur de la chaumière un vieillard tremblant de froid. « Père Elmein !» s'exclama Grethe. « Mais que faites-vous ici ?» Elle s'affaira aussitôt, tendant au prêtre des vêtements secs et lui versant à boire pendant qu'il racontait sa triste aventure. Je venais d'embarquer avec quelques autres voyageurs sur l'une des barques qui traversent le lac. Les eaux étaient paisibles. Nous en étions à la moitié de notre traversée quand la tempête s'est abattue sur nous dans une furie de nuages noirs, de vent et de grêle. Le passeur perdit ses rames, le bateau son gouvernail et les éléments nous emportèrent. Je priais de toutes mes forces pour le salut de mes compagnons lorsqu'il me sembla apercevoir la rive. À ce moment-là, un affreux tourbillon nous enleva. Je fus projeté par-dessus bord et coulé à pic. Je me suis réveillé devant votre maison, dans l'état où vous me voyez. Une vague m'aura sans doute déposé ici. » Dans le silence, on entendit soudain Ondine applaudir et s'écrier d'un ton joyeux. « Merci, chère vague du lac, merci, cher nuage, d'avoir conduit jusqu'à nous ce très saint homme. » Grethe leva déjà la main sur la jeune insolente quand le père Elmein s'interposa. « Cet enfant ne pense pas à mal et se réjouit de grand cœur de me voir sain et sauf parmi vous. » Hildebrand s'avança à son tour. « Mon père, votre présence me ravit autant que cette jeune fille, à qui j'ai promis ma foi. Je souhaite l'épouser sans plus attendre si ses parents y consentent et si vous acceptez de bénir notre union. » La phrase résonna dans un silence absolu. Les éléments s'apaisèrent aussi brutalement qu'ils s'étaient déchaînés. Albrecht se moucha très fort. Grethe se mit à pleurer. Ondine sourit, les yeux pleins de larmes. Puis on ralluma le feu. On nettoya la salle. Ondine s'en alla cueillir des brassées de fleurs et de branches que l'on suspendit partout dans la maison. Grethe sortit sa plus belle nappe, ses bougeoirs de verre doré et deux cierges qu'elle avait conservés depuis la messe pascale. Le prêtre demanda quels anneaux échangeraient les époux. Grethe et Albrecht portaient chacun une mince bague d'étain et Hildebrand avec une lourde chevalière armoriée. Sans bruit, Ondine se glissa dehors et revint avec deux anneaux d'or tressés au creux de sa main, un fin diadème de fleurs et de perles posé sur sa chevelure. À ses parents, elle annonça simplement « Ces trésors étaient cousus dans la belle robe que je portais lorsque l'on m'a conduite jusqu'à vous. Je les avais cachés dans un saule creux car je ne devais les montrer à personne avant ce jour. Mais n'ayez aucune crainte, ils sont bien à moi. » Puis elle alla revêtir sa plus belle robe, taillée dans une fine mousseline brodée qu'Albrecht avait achetée à un colporteur pour ses 15 ans. Dans la lumière des cierges, au milieu des fleurs, Ondine et Hildebrand furent unis par le mariage. À la fin de la cérémonie, Ondine prit son luth et sa voix s'éleva comme un enchantement, répétant les paroles d'une très ancienne chanson d'amour. On fêta ensuite les époux en buvant du vin du Rhin. Mais le père Edman s'interrogeait. Il croyait que les deux couples, le jeune et le vieux, étaient les seuls habitants de l'île. Or, il avait vu pendant la célébration un homme vêtu de blanc les surveiller par la fenêtre. Quand on lui confirma que les habitants de l'île étaient tous bien là, face à lui, il avoua très troublé qu'il pensait avoir reconnu l'un des passagers qui se trouvait à bord de sa barque juste avant le naufrage. À ces mots, Hildebrand se tourna vivement et aperçut derrière la vitre un large visage blême. Sans attendre, il sortit. Dans la lumière de la lune, une brume épaisse et blanche, toute poisseuse d'humidité, roulait en volute vers le ruisseau. Alors, le chevalier rejoignit ses compagnons et sa jeune épouse lui tendit un verre où brillait un vin d'or pâle. Un détail lui revint soudain en tête. « Que voulais-tu dire, Ondine, avec tes histoires de lutins et de trolls lorsque le père Elmein a frappé notre porte ?»« Des souvenirs d'enfants, des contes qui font peur, » commença la jeune femme. Elle fut interrompue par Grethe qui annonça qu'il était temps de conduire la jeune mariée jusqu'à sa chambre et Hildebrand chassa de sa mémoire cette question sans importance.
S'manne mit dem Sond ist noch nicht vorbei. Die Sterne an der Wand warten, als sie schleien.